Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
S'il vous plaît, votre
Z,
merci. Avec les chips.
Santé, Mario!
Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
Le numéro 1 mondial, l'Espagnol, Rafael Nadal!
Moi, je dirais j'ai idée. Je sais pas pourquoi, juste. Moi, je suis pas trop rêveur. Je suis plus.
Ouais, je suis d'accord.
Dans le présent, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Je sens le côté pragmatique de Daniil que je peux avoir aussi, mais avec un côté utopiste aussi, et que j'essaye par ma personnalité. Petite touche de lui aussi lui apporter pour qu'il se enrichisse aussi dans ce domaine-là.
En même temps, je peux être rêveur, mais je trouve que j'y ai un peu plus. Donc,
Et il faut que je fasse gaffe à pas être trop rêveur non plus pour un mec comme lui.
Ouais.
Salut, c'est Max et bienvenue sur le podcast Tennis Légende. Notre invité pour ce 21e épisode vient de remporter le Masters de fin d'année, aussi appelé Tournoi des Maîtres, à Londres avec son poulain Daniil Medvedev. Et pourtant, vous allez découvrir que sa carrière dans le tennis se joue à pas grand-chose. Lui qui a découvert ce sport assez tard, à l'âge de 15 ans, a rapidement progressé et rêvé de devenir pro alors qu'il était 15-5 à 17 ans. Vous aurez bien sûr reconnu l'entraîneur français Gilles Servara. Vous allez découvrir à quel point Gilles a suivi sa flamme intérieure, comme il l'appelle, contre vents et marées, et vu où ça l'a emmené, on se dit qu'il a bien fait de l'écouter. Ce coach est un enthousiaste qui aime plus que tout travailler dans la bonne humeur. Il nous raconte quelques anecdotes légendaires, de sa période en tant que sparring partner avec Thomas Enquist, qui envoyait des souches en coup droit, ou encore le délicat joueur russe Marat Safin. On parle de ses tout débuts avec l'ado, devenu homme puis champion Daniil Medvedev. L'entretien est en deux parties. La première retrace le parcours de Gilles et ses méthodes de travail. La seconde, qui arrive mardi prochain, est plus orientée autour de son poulain, Daniil le Tsar. C'est notre première interview par téléphone. Le son est un peu moins bon, mais l'échange n'en demeure pas moins intéressant, au contraire. On a une nouveauté cette semaine, une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire pour recevoir les épisodes et quelques coulisses supplémentaires directement dans votre boîte mail chaque mardi. Pour nous aider à faire connaître la chaîne, pensez à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. Ça prend 5 secondes et vous devenez instantanément une légende dans notre cœur. Dernière chose, depuis maintenant un mois, on a lancé la chaîne Tennis Légende Podcast sur YouTube, sur laquelle on diffuse un extrait quotidien. Alors si c'est pas encore fait, fonce t'abonner. Et les liens vers la newsletter, Apple Podcast et la chaîne YouTube sont juste en dessous, dans la description de l'épisode. Place à l'entretien avec Gilles Servara. Bonne découverte et bonne écoute à tous.
Et déjà, un grand merci d'avoir accepté, c'est hyper cool. Merci beaucoup.
Ok, il n'y a pas de problème avec plaisir.
Gilles, t'es né le 2 janvier 81. T'as commencé le tennis assez tard, à l'âge de 15 ans. T'as rapidement eu envie d'être joueur de tennis professionnel, même en ayant commencé assez tard. T'es monté quand même négatif. Puis tu as été sparring partner de Joe Tsonga, Thomas Enquist, Marat Safin et Justine Hénin. Puis en 2007, tu t'es formé tout seul, hors du sérail, au métier d'entraîneur. Tu coaches actuellement le russe Daniil Medvedev à temps plein depuis l'été 2017 à l'Elite Tennis Center, la structure que tu as lancée à Cannes avec Jean-René Lisnard, 84e mondial en 2003. Je cite tes mots parus dans l'équipe, c'est parti d'une envie très profonde et inexplicable d'évoluer sur le circuit, que tu as suivi contre vents et marées, une flamme intérieure puissante d'accéder au circuit pro, un long cheminement, une quête personnelle, une recherche sur toi-même pour expliquer ce qui pouvait te barrer la route et comprendre pourquoi tu avais une telle envie et une telle détermination. Tu t'es donné 24 heures sur 24, aller au bout de ta quête, c'était ton plaisir. Tu as été élu meilleur coach de la saison 2019 par tes pairs grâce à votre fructueuse association avec Daniil, devant Nicolas Massou et Dominic Thiem, Carlos Moya avec Rafa Nadal, Apostolo, c'est son fils Tsitsipas, ce sont les autres entraîneurs du circuit qui ont voté pour toi. Avec Daniil, vous vous êtes rencontrés en 2014, il avait 17 ans et était 15e mondial junior, et tu dis qu'il n'avait pas forcément le physique d'un joueur de tennis, que tu le prenais pour un gars de passage à l'occasion d'un stage lambda au centre d'entraînement. Vous vous êtes vite très bien entendu, même si tu as appris à le connaître au fur et à mesure et à te rendre compte qu'il pouvait parfois péter les plombs à certains moments. Daniil confie volontiers qu'au-delà de votre collaboration, vous êtes amis en dehors du cours, qu'à vos débuts, la relation n'était pas si simple à cause de la langue, entre autres. Medvedev ne comprenait pas tout en français. Ton poulain a fini l'année 2019 cinquième mondial, avec 59 victoires, dont 46 sur dur, 4 titres, dont 2 Master 1000 à Xingxi et Shanghai, et 5 autres finales, dont sa première en Grand Chelem. Il y a un match à forte tension qui illustre bien ta connaissance du bonhomme au deuxième tour de l'US contre le Bolivien Hugo Delien. T'encourages Daniil à fracasser sa raquette à 3-3 au deuxième, chose qu'il exécute à merveille en démolissant son cadre tout en te regardant. Sauf que derrière, il joue enfin libéré et ira jusqu'au cinquième set d'une finale incroyable de 4h51 contre Rafa Nadal en revenant de 2 manches à 0 et en perdant hélas 6-4 au cinquième, mais en demeurant pas moins héroïque. Une année très fructueuse à tout niveau, puisque ton poulain a empoché la bagatelle de 7 millions de dollars de prize money. Ce qui t'impressionne le plus chez Daniil, c'est son cerveau, qu'il transforme parfois en magie, en génie. Tu dis que ce qu'il vit et capte semble hors de portée de la majorité des joueurs de tennis. Tu dis également par ailleurs que ta méthode de travail est holistique, que ce soit mentale, cérébrale, physique, technologique. C'est essayer de prendre en compte toutes les pièces du puzzle pour les agencer au bon moment. Ton message grâce à ton parcours est clair, aller chercher ce que chacun a au fond de soi, peu importe les discours extérieurs, à condition de travail et d'investissement, c'est nos limites. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose d'important à ta présentation, Gilles ?
Écoute, non, c'est bien dit. Tu me connais mieux que moi-même maintenant, là, je pense.
Ah oui, quand même.
Non, c'est très très bien résumé, très bien synthétisé. Donc j'ai absolument rien à rajouter.
Bon, bah merveilleux. Alors reprenons au départ. Tu as commencé le tennis à 15 ans. Comment tu as commencé et qu'est-ce que tu as ressenti au départ, dès le départ ?
Écoute, donc comment j'ai commencé ? En fait, c'est venu parce que j'avais un de mes amis au collège qui jouait au tennis, qui était dans les meilleurs français, il s'appelait Pierre Capdeville.
Ouais.
Et qui m'a fait commencer parce que lui joue au tennis, tout okay. simplement. Et donc, je me souviens, parce que même lui, au départ, il me disait, ah, bah, tu feras un petit peu de compétition, etc. Et je me souviens dans ma tête que je me disais, mais jamais je ferai de la compétition, c'est impossible.
Ah oui.
Et naturellement, c'est arrivé. Avant, je faisais plein d'autres sports, mais aucun sport ne m'accrochait vraiment. Et le tennis, quand j'ai commencé à jouer au tennis, là, tout de suite, ça m'a pris, je me disais, putain, c'est super, la sensation de la balle dans la raquette, je m'en souviens encore la première fois.
Ouais.
Et donc, je me suis mis à jouer, alors, au début, je sais pas si, oui, c'était pour le plaisir, j'y voyais aucun avenir en particulier, mais j'aimais ça, donc, j'aimais m'entraîner, ça rencontrait mon côté un petit peu sérieux et d'avoir envie de faire les choses bien. Qui m'ont tout simplement emmené à m'entraîner de plus en plus et à continuer dans cette voie. Quoi.
Et ouais. C'était dans quel coin ? T'es originaire d'où ?
De Cannes.
D'accord.
À Sofia. J'ai commencé à Sofia en Tipoli. Non, j'ai commencé au Canet, la SPTT Canet au tout début, pendant un an et demi. Et puis après, j'ai basculé au Sofia Country Club à l'époque, qui était un des deux plus grands clubs de la côte. À l'époque, il y avait Daniel Conté, Alain Lambert.
Ouais.
C'est là où je suis rentré dans le sport études de l'époque de là-bas et c'était quelque chose de déjà, c'était pour moi un espèce de défi. C'était déjà quelque chose de renommé, un peu élitiste, même si j'étais pas du tout dans l'élite, mais qui était un peu intimidant aussi et j'ai réussi à m'introduire là-bas.
Et quand ton pote de l'époque te disait que tu pourrais faire de la compète et que toi tu t'y voyais pas du tout, t'es quand même Monténéga, t'as moins d'eux, t'as commencé tard. Quand on commence tard au niveau de la technique, c'est assez dur d'avoir une belle technique, tout ça. Enfin, comment t'as progressé
alors,
et comment
je pense que au niveau technique, c'est pas ça qui m'a barré la route, vraiment
ouais.
pas.
Okay.
Je pense pas que ce soit au niveau technique, c'est plus au niveau. Enfin, tout ce qu'on n'acquiert pas quand on commence tard, en fait, des automatismes, des rouages que t'apprends, qui même inconsciemment, quand t'es dans des âges vraiment des âges très très
comme
très
quoi
jeunes,
comme lesquels
Bah, comme un contrôle de balle que, ou coordination que tu vas avoir sans que t'aies besoin d'y penser, d'y réfléchir. Moi, à l'époque, ça, j'ai jamais acquéri ça quand j'étais gamin. Du coup, ça, j'ai dû le construire par le développement de la concentration, le développement des répétitions et des répétitions. Et du coup, ça te coûte quand même de l'énergie, ça te coûte en énergie, je dirais, ouais. Et il y a ça, et puis il y a aussi de jouer des matchs quand t'es jeune. Ouais. Ça t'apprend la compétition, ça t'apprend des choses sur toi que moi j'avais pas du tout et que j'ai dû apprendre sur le tard. Et voilà, qui m'ont fait partir tard. C'est comme si tu commences une course de vélo et que tu me dis de commencer de partir une heure et demie après le départ, quoi. C'est l'image que je vais avoir. Même si je dis pas que j'aurais atteint un plus haut niveau ou le haut niveau si j'avais commencé beaucoup plus tôt, j'ai pas la prétention de dire ça parce que il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Ouais. Mais voilà, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'il y a vraiment des choses que j'ai découvert très tardivement et au prix de et tout seul en plus et au prix de voilà de découvertes personnelles et voilà.
Ah, mais t'es quand même monté négat en commençant aussi tard. Ça a été quoi ta progression de non classé à moins 2?
J'ai fait non classé. Alors, quand j'ai vraiment commencé à m'entraîner en ayant vraiment le but de d'être joueur professionnel, j'étais à 15-5.
Ouais.
J'étais à 15-5. Je devais avoir 17 ans, 17 ans et demi. Et j'ai fait 15-5, 2-6 avec en étant à 15-1 à l'intermédiaire et 2-6-0. Et là, j'ai stagné un peu.
Non.
J'ai stagné un peu dans mes années de 0 à moins 2. J'ai vraiment stagné. Alors que franchement, je pense que j'aurais pu atteindre au moins moins 15. Je vais pas dire sans problème. C'est prétentieux de dire ça, mais je pense que j'avais ce potentiel au minimum. Voilà.
Et quand, après avoir commencé à 15 ans, au bout de combien de temps, t'es 15-5, t'as mis combien de temps à te mettre à la compète et gagner tes premiers matchs?
Écoute, là, quand j'ai commencé à m'entraîner et que j'étais 15-5, là, ça allait assez vite, les premiers, pour faire 15-5-2-6, j'ai presque envie de dire que j'ai pas eu trop de difficultés, en fait.
Et t'as fait 160 matchs ou tu jouais grave, en fait?
Non, je jouais, ouais, j'ai dû faire une centaine de matchs, je faisais une centaine de matchs par an à ce moment-là.
Ouais.
Mais bon, voilà, là, c'est presque, quand on enchaîne les victoires comme ça dans ces petits classements, c'est, je veux dire, c'est pas représentatif de du niveau, tu vois. Là, c'est plus quand t'arrives aux alentours de négatif. Et surtout à l'époque, c'est pas pour comment dire dévaloriser le jeu de maintenant, mais à l'époque négatif, c'était quand même une étape vraiment significative.
Ouais.
Et quand t'atteignais ce classement négatif ou et après moins 4, moins 15 et moins 30, c'était encore autre chose. Je me souviens de mec sur le circuit, c'était, je veux dire, aujourd'hui, un mec à moins 15, c'est encore difficile de faire des comparaisons, mais un mec à moins 15 de l'époque, ça valait pas à moins 15 d'aujourd'hui. Vraiment, je pense que
t'avais en deçà. T'avais quel âge quand t'étais 15-5 et que tu disais que tu voulais être joueur professionnel de tennis?
J'avais 17 ans, ouais, j'avais 17 ans, 17 ans et demi, je crois.
Et on te répondait quoi quand déjà, est-ce que tu le disais publiquement?
Non, pas je le disais pas, ça, je le disais pas. C'est pas quelque chose que je disais. J'affichais pas. Je m'affichais pas, j'avais aucune, je savais ce que je valais, et ce que ça représentait. Donc, j'étais discret par rapport à mes objectifs, à mes rêves et à ce que je ressentais au fond de moi-même. Donc, moi, je faisais mon truc dans mon coin avec passion, avec implication. Comme j'ai toujours fait dans ce qui m'intéresse. Et puis voilà, après bien entendu qu'on a dû se foutre de ma gueule ou dire mais c'est qui ce type. Moi je partais dans toute la France à 15-5, je faisais des tournois à Lille, dans toute la France. Je me suis retrouvé dans des tournois et je demandais aux gens voilà, est-ce que je peux être hébergé, est-ce que vous pouvez venir me chercher à la gare, et ils comprenaient pas quoi qu'un 15-5 ou un 15-1 ou un 2-6 viennent de Cannes pour jouer un tournoi, jouer à 9h du soir, des trucs comme ça. Et comment dire, ça je l'ai fait. Je me souviens de tournois à Lille où justement dans ces années-là, j'apprenais à partir, j'étais jamais parti de chez moi, et de me retrouver à jouer des tournois, des matchs à 21h à Lille, et j'étais dans des états par moment pas possible parce que c'était un peu nouveau pour moi, à 17 ans, bon, j'ai envie de dire 17 ans, c'est déjà avancé, mais je pouvais me retrouver dans des états d'âme qui m'empêchaient presque de jouer, et je perdais des matchs lamentablement contre des mecs qui jouaient bien moins bien que moi, ouais. Et je me confrontais à ces choses-là. Qui me faisait bien chier, bien mal, qui m'ont fait perdre pas mal de temps, mais voilà, ça a été un peu ma formation personnelle pour pouvoir avancer et faire quand même ce que j'avais envie de faire. Voilà, j'étais face à des trucs qui me barraient la route, mais j'avais quand même la sensation de me dire, mais attends, mais c'est pas ce que je veux au niveau du tennis, ça représente pas ce que je suis capable de faire, donc il faut que j'arrive à quand même me sortir de ça pour juste exprimer ce que je sens pouvoir faire, quoi. Voilà.
C'est bon. Et il y a des tournois un peu partout sur la côte, enfin là où tu habites. C'était quoi le but d'aller à l'autre bout de la France? C'est toi qui te poussais à faire ça ou on te poussait à le faire?
Alors ça, ces tournois-là, je les faisais quand il n'y en avait pas sur la côte, en fait. Ouais. Parce que il faut pas croire, sur la côte en hiver, il n'y a pas trop de tournois. En hiver, il n'y avait pas la possibilité de jouer trop de tournois. Okay. Alors, ceux qu'il y avait, je les jouais. Et puis après, il y avait le côté un peu pour voyager, pour m'aguerrir. Je sentais que j'étais attiré par un peu l'aventure de partir. J'ai eu un peu ce côté-là de partir. Ah oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que quand j'étais 15-5, je suis parti un an aux États-Unis, dans une petite structure, pour pouvoir m'entraîner, et puis parce que là-bas, effectivement, à l'époque, les Américains, ils s'en foutent de ton classement. Ce qui les attire, c'est l'énergie avec laquelle tu fais les choses, ouais. Et il y a que ça qui compte. Donc alors moi, j'arrivais pas en me disant, je m'affichais pas en me disant, encore une fois, ouais, je veux être joueur professionnel. C'est juste, voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de m'entraîner, et j'ai de l'énergie à revendre, et j'ai du sérieux à donner dans ce que je fais, donc c'est ce que j'ai fait. Et ce qui est marrant, c'est que donc ça, c'était en 98, ouais. Et donc dans une petite académie qui s'appelle en Floride à Miami, qui s'appelait Nunez Tennis Training. Ouais. Et 20 ans après, je me retrouve à repartir à Miami pour le tournoi, le Master 1000 de Miami avec Daniel, ouais. Et que j'ai recontacté la personne qui était en directeur du truc, et je lui dis, voilà, je suis là pour le tournoi, je reviens. Et depuis, chaque année, quand je me retrouve à Miami, je vais dîner chez eux.
C'est bon,
ça. Je pense que le mec est halluciné de me voir là après 20 ans, et qu'il ait vu un petit Français arriver et être dans son académie en étant inconnu total, en n'ayant eu aucun classement international en junior ou même sur le circuit. Et donc c'est assez drôle quand même.
Ça devait coûter un bras, ce camp-là. C'est tes parents qui te l'ont payé?
Ouais, c'est ma mère qui me, enfin ouais, c'est ma famille qui m'avait financé. Alors à l'époque, je sais plus combien c'était. Franchement, je sais plus. Mais voilà, je pense que après bravé les barrières qu'on m'avait mises, parce que ma famille voulait pas au départ que j'arrête les études. Ouais. Là, j'étais en terminale et du coup, j'avais dit que je faisais pas correspondance, que je partirais là-bas pour faire ça. Vu que je pense que j'étais incontrôlable pour personne, et que c'était mon désir, finalement, ma famille a accepté. Et puis voilà. Après, c'est des histoires familiales, c'est-à-dire que, et c'est là, moi, ça m'a intéressé aussi en psychologie, c'est que après, moi, je sais que ma grand-mère à une histoire particulière où aussi elle a beaucoup entrepris des choses. Okay. Et je pense que ça répond à quelque chose de familial qui fait qu'à un moment donné, dans la famille, on se retrouve finalement à se dire, mais je peux comprendre, j'ai vécu la même chose, j'ai fait la même chose, à être capable de partir de chez moi pour pouvoir mener à bien des choses que j'avais envie de vivre.
Est-ce que tu peux nous parler de cette flamme dont tu parlais, que tu avais en toi et que tu voulais suivre contre vents et marées? Comment ça se matérialisait? Qu'est-ce que ça te disait? Comment t'as donné vie à ce truc-là?
Écoute, ça, c'est quelque chose aussi, c'est, je dirais, une transmission de famille, tu vois. Pour avoir recherché des choses dans ma famille, pour me comprendre et pour savoir un peu qui je suis, ça vient pas de nulle part, tu vois. Je l'ai parce que j'ai hérité de quelque chose de mes ascendants et tu voilà, tu as ça au fond de toi et c'est quelque chose qui soit tu l'écoutes et tu suis cette flamme là, mais en essayant de la canaliser aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai eu et qui m'a aussi joué des tours, donc j'ai dû travailler là-dessus pour pouvoir en faire une force et pas un truc complètement
dans tous les sens, quoi.
Incontrôlable, ouais. qui a été incontrôlable à un moment donné. Donc voilà, dans cette force, il y a aussi des failles, et dans cette faille, il y a aussi des forces. Voilà, donc ça après c'est propre à chacun. En tout cas, j'ai toujours voulu me servir de ça et j'ai très vite compris que j'avais quelque chose qui me poussait à
te dépasser,
même les choses les plus folles à les écouter et à me dépasser parce que c'était mon chemin, quoi.
Ouais. C'était qui les mecs les plus forts que t'es battu, les gars qui sont peut-être devenus pros par la suite quand tu jouais encore?
J'ai plus de souvenirs. Je sais que j'avais fait des bons matchs avec des balles de match sur des mecs qui étaient montés, des Argentins. Ça dira rien. Deux coups, c'est des mecs qui sont montés 300, 200. Okay. Comme ça. Après, c'est plus des joueurs français qui sont montés à moins 30 ou première.
Ouais.
Après, c'était le circuit de l'époque qui était sympa. Je me souviens. Des Laurent Digne et des Nico Grammar, c'est pareil, ça peut faire rigoler certains joueurs pro, mais bon voilà, c'était mon niveau de rencontrer des mecs comme ça et que ce soit des challenges, tu vois. Donc après chacun a son niveau maximal et en tout cas je sais que c'était des mecs qui jouaient bien, à un niveau quand même respectable. Voilà.
T'as joué des qualifs de futur un peu?
Ouais, j'en ai joué, mais bon, j'ai le sentiment que j'ai merdé de ce côté-là. Je me suis enlisé là-dedans et j'ai rien fait de significatif, quoi. C'est pas quelque chose dont on peut parler, même si je pense que j'avais la possibilité de faire mieux que ce que j'ai fait, ça n'a pas été le cas. Hein.
Ta décision de devenir entraîneur est venue d'où et comment s'est fait le processus, quoi?
Écoute, quand j'ai décidé d'arrêter, donc ça c'était en 2006 ou 2007, je crois que c'était 2007 plutôt, ouais, 2007. Il faut bien réfléchir à qu'est-ce que j'ai la possibilité de faire. Et on m'avait proposé à l'époque, j'avais pas le BE, à l'époque c'était le BE,
ouais.
Mais j'avais pas de diplôme. Donc j'avais déjà commencé mon tronc commun et j'avais le choix d'entraîner dans mon club à Grasse, dans le tennis études, ou bien d'entraîner une jeune fille qui était de l'année de Mladenovic, qui était dans les 5 meilleurs, qui s'appelait Josepha Adam.
Ouais.
Et parce qu'avec son frère, je partais souvent en tournoi avec lui. Et du coup, il m'avait proposé d'entraîner sa sœur, donc de monter à Lille pour entraîner sa sœur. Et donc j'avais le choix soit de rester là, soit de partir. Et ça a été une décision, ça a été la première décision importante au niveau de l'entraînement, mais qui a été difficile parce qu'au départ je me disais qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je repars de galérer, de partir, de pas savoir ce que je vais faire, que ça soit incertain, etc.
Ouais.
Ou bien de me dire bon voilà, je me pose à côté de chez moi et puis je fais ça. Donc ça a vraiment pas été facile. Et puis bon, entre temps, dans ces réflexions là, j'ai passé le BE en candidat libre. Là, en deux jours, montre en main, j'avais mon BE.
Okay.
Avec quand même pas mal de réussite, mais bon, c'est pas du hasard non plus parce que tout ce qui concernait l'entraînement, tout ça, j'ai validé tout ce que j'avais à valider. Je l'ai fait facilement parce que je m'intéressais à l'entraînement, parce que je me suis entraîné pendant une dizaine d'années avant de faire ça et que au-delà de jouer, je m'intéressais à ça, quoi. Voilà, l'entraînement, ça a toujours été mon truc, en fait. L'entraînement et la compétition, ça c'est devenu mon truc, où même si j'ai pas réussi à être au très haut niveau ou au haut niveau, j'apprenais des choses, ça me parlait, quoi.
Okay.
et et où j'en ai fait quelque chose. Et là, donc j'ai décidé parce que ben voilà, ma flamme m'a conduit à me dire bon, non, si je reste ici, je vais mourir. Cette flamme, elle va s'éteindre et je vais me retrouver dans trois ans, cinq ans, me dire mais qu'est-ce que j'ai fait là, parce que j'ai voulu me poser, ça veut rien dire. Donc je suis parti et puis j'ai entraîné cette jeune fille pendant un an et quelques mois. Ça a été une bonne réussite et une bonne expérience. J'étais tout seul, je me démerdais, je faisais tout, je faisais le physique, je faisais le mental, je faisais le tennis.
Ouais.
Et je me formais en même temps sur la préparation physique, sur la préparation mentale. Donc j'ai appris tout seul sur le tas. Alors évidemment je suis pas, quand je dis tout seul c'est faux, c'est-à-dire que c'est moi qui le faisais, en le faisant j'apprenais. Okay. Et en même temps j'ai toujours réussi à m'entourer et de personnes qui sont devenues un petit peu des références. Je pense que mon énergie, mon ma curiosité et je pense un peu mon intelligence aussi me faisait rencontrer des gens qui transmettaient bien des choses en fait.
C'était qui tes mentors?
Alors j'ai eu une première personne au niveau de l'entraînement qui a été mon entraîneur, qui s'appelait Philippe Rome. Ensuite j'ai eu un deuxième entraîneur qui était dans le karaté, dans les sports de combat, parce que j'ai été très branché aussi sports de combat.
Ouais.
Après au niveau de la préparation physique, j'ai fait une formation personnelle chez Cometti à Dijon. Le mental, c'était un mec qui s'appelait Christian Targé, qui est de Nice et qui avait monté une formation à Dijon aussi. Donc voilà, j'ai plein de personnes qui jalonnent mon parcours, de que ça soit sur le tennis, le physique, le mental.
Ouais.
En ce moment, au physique, je suis très proche de Fred Aubert, qui est entraîneur de la Fédé française de foot, là, qui a entraîné les filles pendant la Coupe du Monde et qui est encore avec elle, je pense.
Okay.
Voilà, qui a été dans le basket, etc. Donc voilà. Et donc après cette expérience dans le Nord à Lille, j'ai voulu changer. Pareil, je voulais pas revenir dans le Sud et j'avais l'occasion d'entraîner au Haut de Nîmes. On m'a proposé quelque chose au Haut de Nîmes et puis finalement je me suis retrouvé à Paris dans une petite structure parce que je voulais pas être dans un truc trop grand.
Ouais.
Pareil, c'est une question de, je voulais encore être dans l'aventure. J'étais attiré par être loin de chez moi.
Ouais.
Donc j'ai fait un an et quelques mois dans cette structure et puis après là j'ai coupé avec le tennis parce que ça me gonflait. Là je trouvais pas trop un petit peu l'issue de ce que je faisais.
Ouais.
Donc pendant quelques mois j'ai arrêté.
Après, t'as fait quoi en arrêtant?
J'ai bossé dans des magasins de sport, j'ai rien à voir, franchement rien à voir. Et puis finalement on m'a proposé un peu de bosser dans un club en Belgique. J'ai fait quelques jours et puis je me suis retrouvé dans un club lambda quoi en fait,
ouais.
Un peu huppé mais lambda, et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi ça.
Ouais.
Du coup j'ai coupé là, j'ai eu une période creuse pendant quelques mois encore.
T'as quel âge à ce moment-là?
Ouais. Là j'ai donc ça c'était en 2009-2010. J'ai quoi 28-29 ans.
OK.
Et
tu flippes un peu, te dire putain, je trouve pas ce que je veux faire, tout ça. Enfin, t'es un peu perdu à ce moment-là.
Je flippe, mais en même temps, quand t'es dans le, je me laissais. C'est comme si j'avais quelque chose au fond de moi qui me guidait en même temps.
Okay.
J'ai bizarrement quelque chose. C'est comme si j'avais un gouvernail qui me dirigeait au-delà de moi-même en fait. Ensuite. Je suis allé retravailler à Paris dans une structure qui s'appelle Players, où ils cherchaient des entraîneurs pour des stages et tout.
Ouais.
Et je me suis présenté là-bas. Et ça a plutôt bien fonctionné. Ça m'a redonné goût un petit peu à suivre des jeunes. Et du coup, mon profil leur a plu. Ils m'ont demandé de rebosser avec eux et de me faire bosser avec eux dans le Sud, à Cannes-sur-Mer.
Ouais.
Donc là pour le coup ça m'a rebranché de redescendre dans le Sud et pendant un an et demi, deux ans, j'ai bossé dans ce club à à Montalegre où Player voulait s'implanter.
Mmh.
Et finalement, ça s'est pas fait. Ils n'ont pas continué là-bas. Et moi, j'ai l'opportunité d'entraîner un jeune en privé à Monaco. C'est ce que j'ai fait pendant 2 ans.
Ouais.
Un jeune qui est monté négatif, qui était à 15 ans à l'époque. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais faire, de pouvoir coacher des joueurs. Alors, ce joueur-là, il voulait être pro. Il avait 14 ou 15 ans à l'époque. Donc, il avait une bonne énergie. Il était prêt à bosser. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et quand ça s'est arrêté, 2 jours après, j'ai recroisé mon collègue avec qui je m'étais entraîné à Monaco, justement, Jean-René Lisnard,
ouais.
qui voulait monter sa structure. Et du coup, on s'est rassemblés, on a rassemblé nos compétences. Et en 2013, juillet 2013, on a créé Elite Tennis Center, qui depuis est devenu ce centre à Cannes.
Yes.
Et depuis, voilà, on bosse ensemble dans ce centre. On a créé ce centre ensemble. Quoi.
C'était avant que tu aies été sparring de Joe Tsonga, Inquist, Safin et Hélin.
Oui, ça, c'était quand je jouais, en fait.
D'accord.
Quand ils venaient à Grasse, je me souviens, ils avaient besoin de personne et j'avais fait une semaine avec Joe.
Est-ce que tu peux nous sortir une anecdote avec chacun de ces protagonistes assez connus? Une anecdote avec Joe, avec Inquist.
Ouais, Joe, dont je me souviens, à l'époque, il revenait de blessure, il était souvent blessé.
Ouais.
Et je me souviens que, on avait fait, c'était sympa les entraînements avec, il était avec Eric Vinogradsky à l'époque et Moncourt, qui était avec lui à cette époque-là.
Okay.
Et je me souviens, ils étaient super sympas. Encore une fois, je pense que j'avais le niveau parce que j'étais comme un dingue sur le terrain. Je m'entraînais comme un fou.
Ouais.
Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais pas le premier choix de sparring parce qu'il y avait un mec dans mon club qui était à moins 30, donc qui était plus fort que moi, je vais dire.
Ouais, mieux classé
mais
en tout cas.
Il n'avait pas accepté, il n'avait pas voulu. Je pense qu'il avait un peu peur. Et du coup, c'est moi qui ai eu la chance de le faire. Donc, je me suis donné à fond et franchement, ça se passait super bien et je pense que ils ont eu un sparring qui était très bien pour leur semaine d'entraînement. Et je me souviens de Joe parce que je me souviens en coup droit, il était monstrueux. Tout ce qui était au-dessus de la tête, match, service, il était incroyable. Je me souviens de ça. Ça m'avait marqué en me disant mais waouh, c'est un niveau, c'est colossal quoi de ce qu'il fait au service. Alors le smash, ça peut paraître anodin, mais quand je dis ça, c'est que tout ce qui était au-dessus de la tête,
ouais.
C'était tu pouvais plus toucher la balle quoi, en fait. Et ce qui est le cas dans son jeu, hein, son service. Tu vois, je me souviens quand j'ai fait ma première saison sur le circuit avec Daniel,
ouais.
Je m'occupais des stats, je regardais des trucs et Joe était le numéro 1 en points gagnés derrière sa première balle. Je me souviens de ça. Et donc ça, après, Mathieu Moncourt, lui, il était increvable, le mec. On se faisait des entraînements parce que j'avais un peu ce style de jeu. Les échanges qu'on se faisait, c'était dingue. Et du coup, quand j'avais joué, parce qu'ils étaient venus pour préparer le futur de Grasse, du coup, ils étaient venus voir mes matchs de pré-qualif et de qualif. Et donc, c'était sympa, quoi. Et j'avais perdu, je me souviens, et Joe, il me disait, mais putain, tu devrais plutôt jouer comme ça, tu du fond, t'es monstrueux du fond, etc. Et en soi, il avait raison. Mais pour le coup, il avait raison, mais en même temps, il y avait des limites. J'avais des limites à ce niveau-là, c'est que si je faisais que ramer du fond, je me lassais, en fait. Et
okay.
Du coup, il fallait qu'il y ait un petit peu de créativité, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un but, en fait. Un but différent que juste remettre la balle.
Inquist, tu te souviens d'un truc avec lui?
Inquist, je me souviens. Parce que j'étais moins bon en coup droit qu'en revers. En revers, j'ai toujours été assez au-dessus. Et d'ailleurs, quand je jouais avec des mecs comme ça, côté revers, je...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Entre guillemets, je craignais rien, quoi. C'est-à-dire que j'étais de leur niveau de côté revers. En côté coup droit, c'était plus difficile. Okay. Et oui, je me souviens, on faisait des diagonales coup droit. Et mon entraîneur à l'époque, c'était l'entraîneur de Monaco, Manu Osner. Ouais. Je me souviens, je pense qu'il avait honte, et moi aussi, parce que quand on jouait avec son coup droit, Enquist qui tapait la balle, c'était monstrueux, c'était un bûcheron, le mec, la balle arrivait à une vitesse, à une puissance, je ne pouvais pas contrôler, je ne pouvais pas la mettre dedans en coup droit. Mais parce que là, ça rencontrait des limites où là, c'est comme si je vais boxer, je suis face à Tyson ou contre un boxeur, et tu te fais démonter, tu peux rien faire, t'as beau dire au mec, mets ta raquette derrière, et là, c'est juste où je suis en bagnole, je suis dans ma Seat, et le mec, il est avec sa BM qui va 4 fois plus vite, quoi. On peut pas rivaliser, quoi. Et je me souviens de ça.
Safine.
Alors, Safine, ce qui est drôle, c'est que j'ai joué quelques fois avec lui. Il était une fois notamment, il revenait de soirée, voilà, et donc il était pas très frais. Donc il y a ça.
À Cannes et toujours.
C'est à Cannes. C'est au tennis club de Cannes. Et ouais. Ce qui est marrant, c'est que cette année, j'étais à la ATP Cup et c'était lui qui était le capitaine pour la Russie. Et ce qui était marrant, c'est que je lui ai reparlé de ça et il se marrait parce qu'il s'en souvenait même plus. Bon, c'est normal. Ouais. Il a vu tellement de monde dans sa vie que c'est pas ça qui l'a fait se souvenir. Mais ce qui était drôle, c'est que cette année, là, il était capitaine, mais il est pas entraîneur. Donc c'est moi presque qui lui disait quand il était sur le terrain, comment parler aux joueurs, comment faire des séances d'entraînement, comment, et c'était drôle parce qu'il était assez réceptif, parce que je suis quelqu'un d'intelligent, Marat, et que je pense qu'il me respectait, qu'il sentait que ce que je racontais c'était pas de la merde, ouais. et qu'il fallait écouter certaines choses, donc c'était très drôle, et du coup on avait une complicité assez simple, et puis aussi parce qu'on est aussi de la même génération, je crois que même que je suis plus âgé de lui de quelques mois ou d'un an, donc c'est un mec quand même simple et sympa humainement, donc et déconneur, donc, et moi comme je suis aussi déconneur, c'était marrant sur la chaise d'arbitre, parce que là quand pendant les matchs j'étais derrière lui, ouais. Et ça m'arrivait de lui faire des blagues et de lui dire des trucs pendant le match ou pendant le changement de côté, donc il ne pouvait pas répondre parce que sinon ça se voyait dans les caméras et des trucs comme ça, donc c'était assez drôle.
Et t'es arrivé à contrôler en coup droit face à lui, ça vient vite aussi, non?
Là quand on jouait, ça c'était marrant parce que lui il avait plus joué et il pensait que j'allais pas pouvoir jouer contre lui, mais j'arrivais très bien à jouer contre lui, donc c'était drôle. Okay. Et il y avait tous les Russes qui regardaient, genre est-ce que je vais arriver à résister, à rivaliser ou pas, et j'y arrivais, bon c'était drôle.
Et Justine Hénin, tu te souviens de quelque chose?
Alors ça va pas être sympa pour elle, mais je le dis avec sympathie ouais. En rigolant, c'est que moi, quand je m'entraînais avec elle, je pense qu'on n'avait pas le fit tous les deux, parce que ouais, on n'avait pas le fit, j'avais l'impression que c'était jamais dans la bonne humeur en fait avec elle, alors que mon pote Benjamin Valeret, qui s'entraînait avec elle, lui il me disait qu'elle déconnait, etc. Ouais. Et moi, avec moi, c'était tout le temps un peu moribond en fait. Okay. Et alors que bon, c'est une fille sérieuse et moi je suis quelqu'un de sérieux, mais j'aime bien tout en étant sérieux que ça qu'on rigole. Je vois moi quand je suis sur le terrain avec Daniel ou avec d'autres joueurs ou moi quand je m'entraîne, quand je boxe, etc. Je suis dedans à fond, ouais. Et il y a de l'enthousiasme, il y a de la bonne humeur, même quand je suis pas dans un bon mood ou j'ai des trucs qui peuvent me tracasser, il y a toujours un moment donné où il y a une accroche, il y a une ouverture pour ouvrir et briser la glace. Mmh. Avec elle, c'était impossible. Et du coup, je détestais m'entraîner avec elle parce que il y avait pas ce truc. Et alors que Benjamin, il me disait, putain, mais moi, avec moi, on rigole et tout. Et je lui disais, bon, bah, écoute, tout simplement, nos deux énergies, elles se rencontrent pas, quoi. Et c'est impossible. Et ouais. Ça, je l'ai vu avec des joueurs. Parfois ça fonctionne et avec d'autres ça matche pas, quoi, tout simplement, donc et voilà, je pense qu'avec elle c'était le cas, quoi. Dans les personnes qui ont jalonné mon parcours, j'ai cité quelques personnes et j'aimerais aussi citer Richard Ouvrard. Lui aussi, c'est une personne qui m'a accompagné, qui m'a formé aussi sur les techniques de coaching mental, je vais dire, et d'accompagnement des sportifs de haut niveau.
Ouais.
Et puisque ça fait partie, c'est très présent dans ma vision des choses en tant qu'entraîneur. Et du coup, c'est quelqu'un qui est important pour moi.
C'est-à-dire, il t'a transmis quoi dans les grandes lignes ?
Il m'a transmis sa façon de voir et d'accompagner l'être humain, qui est pas seulement lui. Il se démarque un petit peu de la préparation mentale, qui est surtout sur des techniques de visualisation, de gestion des émotions, qui sont indispensables pour les sportifs. Ouais. Lui, il est plus dans l'accompagnement de d'autres dimensions du sportif et de la personne. C'est difficile à décrire parce que bien sûr ça va avoir un impact sur les émotions, mais ça va plutôt consister à permettre au sportif de d'utiliser les matériaux qu'il a en lui-même par rapport à qui il est, et à évoluer, à bouger ces choses-là, à les transformer. Et forcément, cette transformation qui se fait à des niveaux plus, je vais dire, plus profonds de la personne, vont forcément faire bouger aussi les réactions et les émotions dans différentes situations, en fait. Voilà. Et donc, l'émotion, elle va être gérée différemment, non pas parce qu'il va y avoir un contrôle ou une gestion de l'émotion, mais parce que la personne aura bougé d'autres choses qui ont un impact sur l'émotion, en fait.
Ok, et ces autres choses, c'est quoi ?
C'est
trop long. C'est trop long.
C'est vraiment propre à chacun. Et il se sert de techniques, notamment la modélisation symbolique. Ça, c'est une technique comme la visualisation, c'est une technique de préparation mentale. Ça, c'est une technique de coaching où grâce aux images qu'on a en soi et qui ont des symboles et qui représente un paysage intérieur pour la personne et qui est spécifique à la personne. C'est-à-dire que si je te dis putain, quand tu es sur le terrain, tu peux qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple, attends, qu'est-ce que j'ai comme situation en ce moment avec des joueurs, merde, comment je pourrais dire ça, attends, il faut que je trouve un truc assez parlant.
La compétition, peut-être, aujourd'hui, comme on a un peu de mal à se projeter sur le...
Non, c'est pas forcément ça, mais sur tu vois, par exemple, si je dis, voilà, un joueur, pour utiliser ses jambes, je vais utiliser mes mots à moi, genre, injecte avec les jambes, par exemple.
Ouais.
Ça, c'est mon mot à moi, par exemple. Ça peut ne pas vouloir dire la même chose pour le joueur. Pour autant, ça veut pas dire que c'est pas bon. Mais, disons que pour le joueur, c'est d'arriver à trouver les images qui lui parlent. Et ces images-là, tout le monde en a, tu vois. Et il faut réussir. Et cette technique de coaching, c'est d'utiliser ton matériau à toi, qui te parle et qui va produire quelque chose. Et comment dire? Et donc, dans l'accompagnement des sportifs de cette façon-là, c'est d'utiliser les images du sportif et pouvoir les faire évoluer avec le coaching pour que ça soit vraiment des ressources. Propre au sportif et efficace pour le sportif, tu vois. Donc
ça veut dire que tu t'essaierais de prendre les mots du sportif, de savoir son vocabulaire, ce qui lui parle à lui, c'est ça?
Ça, c'est indispensable. Ouais, ça, c'est indispensable. Et là, bon, là après, ça, c'est des techniques de pro proprement dit. Moi, j'ai pas la prétention de dire que je suis pro là-dedans, mais comme je suis sensible à ça, je vais y faire attention. Et du coup, je vais le gérer différemment que quelqu'un qui n'est pas du tout conscient de ça, tu vois.
Okay.
Et du coup, je sais que j'agis avec ça. Je sais que j'agis à mon niveau de compétence sur le sportif. Après, comme je te dis, je suis un entraîneur qui est assez branché et qui prône ce travail de développement et d'accompagnement pour le sportif.
Ouais.
Moi, après, j'encourage les joueurs que j'entraîne à travailler avec quelqu'un pour développer ça et puis pour le rendre encore plus performant, efficace, etc. Voilà.
Et concrètement,
Et du coup, je travaille en lien avec aussi la personne qui peut travailler avec le joueur, forcément.
Bien sûr, ouais. Et si t'avais pas été dans le tennis, t'aurais été chaman, non?
Non, je sais pas, parce que ça, c'est encore autre chose. Mais d'ailleurs, tu parles de chaman, on parlait de Marat, et hier, lui, il est branché là-dessus. Il est branché là-dessus. Hein.
Branché chamanisme ?
Ouais, il est branché chamanisme. Mais vrai chamanisme, c'est-à-dire dans des pays où c'est vraiment une tradition et où c'est vraiment reconnu comme quelque chose c'est quelque chose d'ancestral dans ces pays d'Amérique du Sud notamment. Et bon, pour nous, on peut voir ça comme quelque chose de d'ésotérique ou de complètement farfelu.
Ouais.
Mais je pense qu'il y a des choses qui nous dépassent et du coup, comme ça nous dépasse, on se dit, ouais, c'est quoi ce truc de dingue, etc. Après, évidemment, tu peux pas l'utiliser à toutes les sauces n'importe comment. Il faut que ce soit bien cadré et que ça fasse pas partir le joueur n'importe où. Et c'est pas du tout ma vision d'utiliser tous les trucs machin et de faire n'importe quoi, pas du tout.
Il en cache Marat derrière ses airs de gars festif.
Il en cache. Moi, apparemment, d'après ce qu'il me disait, il a beaucoup changé quand même.
Bon, ok. Pour revenir sur ta collaboration, ton association avec Daniil. Donc vous avez commencé ensemble quand il était junior, c'est bien ça? Tu l'as pris, il était 30e mondial junior, il me semble.
Alors en 15e. Fait, il est arrivé au centre en 2014, il était dans les 15 premiers juniors, entre ouais. 10 et 15, je crois qu'il était 13.
Ouais.
Et il se trouve que à l'époque, c'était 2014, on était vraiment au début du centre, donc il y avait JR, moi et Julien Jean-Pierre qui venaient d'arriver au centre pour nous aider, pour travailler ouais. avec nous.
Yes.
Donc on était peu d'entraîneurs et cette semaine-là, quand Daniil est arrivé, je crois que j'étais le seul entraîneur au centre à gérer le centre. Et du coup, c'est moi qui prenais en charge tous les entraînements de tous les joueurs.
Okay.
Je faisais du 8h-18h non-stop quasiment. Et donc Daniil est arrivé ce jour-là et c'était une semaine comme ça. Et moi, je l'ai entraîné cette semaine-là.
Ouais.
Parce qu'il venait faire un essai et en même temps préparer ses tournois juniors, sa tournée junior sur terre battue qui avait en France, en Italie, voilà. Donc moi, je l'ai connu comme ça, mais bon, comme un joueur normal qui venait au centre c'est-à-dire où quand on accueille des joueurs, on ne sait pas que on va accrocher avec un joueur, etc. On fait son boulot, c'est ce que je faisais. Et puis là, voilà, Dani était un joueur comme un autre, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Et puis au fur et à mesure des mois. Ce qu'on cherche à faire avec les joueurs, c'est de pouvoir faire essayer tous les entraîneurs aux joueurs pour voir avec qui il a le plus d'affinité, avec qui il sent que ça va, il veut travailler.
Ouais.
Et à l'époque, Daniil avait choisi Julien Jean-Pierre, notamment par rapport au fait qu'il avait de l'expérience sur le circuit, etc. Et donc leur collaboration, elle a dû durer un an à peu près, un an et deux mois, quelque chose comme ça. Alors à l'époque, dans notre gestion du centre, moi, ça m'est arrivé quand même de continuer de faire quelques entraînements avec Daniil, parce que j'étais responsable du centre et que j'entraînais aussi d'autres joueurs, et je continue d'entraîner Daniil. Et puis, en 2015, je me souviens, j'ai fait un premier déplacement avec lui parce que Julien était sur un autre tournoi avec un autre joueur qui, avec Arthur Delay, je me souviens, en Tunisie, qui était allé en finale ou en demi-finale, du coup, ouais. avec Alif de Marseille. Pareil, j'étais le seul entraîneur du centre à ce moment-là, sur place. JR était ailleurs aussi, je sais pas avec qui. Et puis donc, je suis parti avec Daniil pour les qualifs de Marseille. On est parti en bagnole. Et puis voilà, il a fait le tournoi de Marseille. Il a passé un tour en battant un mec, Martin Weiss, qui était 200 et quelques à l'époque. Et c'était sa meilleure perf en tant que joueur. Et puis voilà, ça s'est bien passé. C'était un tournoi, je veux dire... c'était ponctuel, voilà. Moi, j'essayais d'être simplement le meilleur possible sur la mission que j'avais. Ça aurait été Daniil ou un autre joueur, ça aurait été la même chose.
Ouais.
À la différence que c'était un tournoi ATP et que pour moi, je crois que c'était le premier tournoi ATP où j'accompagnais un joueur.
Ok.
Voilà. Donc ça, c'était en 2015. Je crois pas que j'en ai fait d'autres avec lui en 2015.
Ouais.
Et en 2016, là, j'ai commencé je l'ai accompagné sur la tournée sur gazon. Je me souviens l'avoir rejoint à Ilkley, un challenger en Angleterre.
Et pareil, il était toujours avec Julien Jean-Pierre et toi, t'es intervenu ponctuellement ?
Alors là, il n'était plus avec Julien. Non, là, il était. C'était déjà. Julien n'était plus au centre à ce moment-là. Julien a arrêté à fin 2015. Donc. Attends, que je dise pas de bêtises. Non, il était encore là, Julien. Donc, c'est juste Daniel qui souhaitait. Attends, je me remémore. Non, je pense qu'il était encore. Il bossait encore avec Julien, mais on tournait un peu plus. Voilà, on mixait un peu plus Julien, moi.
Ouais.
Et parfois JR aussi. Et là, il se trouve que c'était prévu que ce soit moi par rapport au dispo de Julien ou de JR, que ce soit moi qui l'accompagne sur ces tournois-là.
Ouais.
Et puis donc, je me souviens d'une tournée de on était parti pour. Lui, il avait déjà commencé avant Ike. Je sais plus quel tournoi il avait fait. On s'était rejoint en Angleterre. Et donc Ike et les qualifs de Wimbledon, donc en gros ça avait fait 3 semaines ou voire trois semaines de déplacement avec lui.
Mm-hmm.
Et donc c'était une période un peu c'était plus long, donc forcément tu rentres un peu plus dans le monde du joueur et je me souviens que ça s'était encore une fois très bien passé, même si c'était pas du tout facile parce que Daniel est quelqu'un qui surtout à l'époque on n'avait rien créé, donc au niveau connaissance de chacun, c'était pas évident. Je me souviens des débriefings ou des débriefings avant match, par moment, tu vois, dans l'accompagnement du joueur, je sentais que c'était pas quelqu'un qui parle beaucoup, tu vois. Donc limite, si moi je faisais un monologue, ça durait 20 secondes, quoi, de ce que j'avais à lui dire, etc. Et j'avais l'impression que putain, en fait, je parle, mais si je parlais pas, ça serait la même chose. Et du coup, je me disais, en fait, presque, je me disais, ça sert à rien ou ça me sert à moi de dire ça. Mais pour le joueur, c'est pas son mode de communication, tu vois. Je sentais ça. Je me disais donc, et donc au fur et à mesure des briefings d'avant match ou d'avant entraînement, j'essayais de peaufiner ma façon de communiquer avec lui pour sentir que, ok, là, ce que je suis en train de faire dans ce moment-là, ça lui sert. Et mais le fait de m'être formé au niveau du coaching avec les personnes que j'ai citées, ça m'a aidé à développer, à rendre le l'échange un peu plus riche,
ouais.
pour le joueur en fait.
Et à la place du monologue, c'était quoi la technique pour rentrer dans son schéma de communication?
C'était de questionner en fait. C'était de questionner parce que c'est lui qui avait l'info en fait. C'est lui qui avait l'info. Et moi, je voulais le diriger quand même. Enfin, le diriger, c'est pas le bon mot, mais je voulais le guider pour, à la limite, avoir des infos. Moi, je voulais avoir des infos,
okay,
pour que éventuellement je puisse rebondir et partager ma vision, mon sentiment, sans dire que j'avais la science infuse et que j'avais raison, mais juste pour pouvoir avoir un échange. En plus, ce qui n'était pas évident à l'époque, c'est que je savais très bien, et je pense que les joueurs savaient très bien, que j'étais pas arrivé à un niveau, à un haut niveau. Du coup, il faut que tu gagnes ta crédibilité, tu vois. Et donc, ouais, quand t'es dans ma position, gagner la crédibilité, c'est pas dire il faut faire ci, il faut faire ça, c'est ci. Parce que le mec, il peut te dire, mais attends, ok, très bien, mais c'est gentil, mais ok, s'il fallait faire tout ça comme ça, comment ça se fait que toi, t'es pas arrivé à tel niveau, tu vois, par exemple. Et j'avais ça dans ma tête, peut-être à tort, mais du coup j'avais ça et à certains moments je pouvais ne pas me sentir légitime de donner un truc, une vérité qui finalement n'appartenait qu'à moi. Et donc j'ai essayé de trouver plus de subtilité pour pouvoir coacher les maîtres en fait. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné. Je dis pas que ça a été facile, je dis pas que c'était efficace. En tout cas, je pense que ça a participé à une bonne accroche avec Daniel,
ouais,
et avec les autres joueurs aussi, parce que finalement, c'est ce que j'ai fait avec d'autres joueurs du centre à l'époque, et j'ai toujours eu des bonnes relations et plutôt des bons résultats avec les joueurs que j'entraînais. Et je pense que ça a y participé. Et du coup, Daniel a fait une bonne tournée sur gazon. Que grâce à ça, hein. Comme je dis, j'ai un mot qui me vient, c'est s'il n'a pas le potentiel de réussite,
ouais,
il ne peut pas le faire.
Ouais.
Donc, mais à l'époque, il était sorti des qualifs, il avait fait deuxième tour à UK dans le Challenger, c'était un super résultat, c'était un des plus gros challengers du circuit. Il perd sur Ryan Harrison, je me souviens, c'est Ryan Harrison, il perd en peut-être troisième tour ou en quart, je ne sais plus. il perd en 3-7 et je me souviens, je me barre du match parce qu'il pète un câble.
Ah oui, déjà à l'époque, tu pratiquais le... Tu
penses... Ouais. Je pratiquais ça en fait au moment... C'est au moment où tu es dans l'impasse et où tu sens que tu peux plus rien faire. Enfin, tu peux plus rien faire. Si tenter que tu puisses faire quelque chose, mais où tu te dis, là, je suis en train de regarder un truc qui a pas d'issue en fait. Donc, soit tu acceptes de juste être là dans les tribunes à attendre que ça termine lamentablement, soit entre guillemets, c'était plus pour dire, écoute, ce que je vois là, moi, je suis pas d'accord. Là, je peux rien faire dans les tribunes. C'est pas moi qui tiens la raquette et je peux pas parler ou pas beaucoup. Donc, moi, je veux pas cautionner ça. Je me casse, voilà. Et c'est mon choix. Et j'ai le droit, et c'est mon choix. Après, derrière, ce qui était bien avec Daniil, et je pense qu'il le ressentait, c'est que je pouvais être entre guillemets en colère de ça, mais ça n'avait rien de t'as pas le droit de faire ça. Comment tu peux faire un truc pareil? Genre lui mettre un poids sur les épaules. C'était plutôt, bah écoute, moi là, je cautionne pas ça. Ouais. Mais bon, après tout. C'est ta carrière, c'est ton truc. Même si là, je suis là en tant qu'entraîneur, encore une fois, j'ai pas la prétention de dire tu me fais ça à moi, quoi, tu vois. Et je pense que parfois, je peux ressentir chez certains entraîneurs, c'est genre tu me fais ça à moi, je viens pour t'accompagner, tu me fais ça. Et j'ai jamais eu cette façon de voir les choses. Donc après, ça se terminait après des briefings de match. On se disait ce qu'on avait à se dire, c'était paisible, et puis voilà, c'était terminé. Une fois que c'était parlé, tout de suite après, on était ok, bah allez maintenant, qu'est-ce qui suit, voilà. Et puis après, donc il y avait le tournoi les qualifs de Wimbledon, et où il a fait dernier tour des qualifs, il perd sur le Marcus Willis à l'époque, qui avait battu, il me semble, il avait battu Berdych au point. Non, j'ai une connerie. Il bat Berankis au premier tour pour jouer Federer derrière Willis. Et je me souviens quand ce Daniil perd, putain, on était défait parce que il y avait la possibilité de pouvoir rapidement jouer Federer, même s'il fallait battre Berankis. Mais je pense que Daniil avait les armes sur le gazon pour battre un joueur comme ça.
Ouais.
Donc c'était pas facile. Je me souviens, c'était pas facile à vivre. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est 2016. Après, je suis reparti avec lui à l'été. Sur un autre challenger, parce que au Kazakhstan, j'étais avec des filles et il y avait en même temps un challenger où Daniil était venu le faire et j'étais resté avec lui 10 jours. Et pareil, ça s'était bien passé, que ça soit en dehors, que ça soit à l'entraînement ou pendant le tournoi. Et tout ça, c'était des petits.
C'était très progressivement,
moments, ouais. Ouais, des petits moments où à la fin, on se disait, bah écoute, merci, super, on a bien bossé, parce que je me souviens à chaque fois, c'était. À la fin, il y a eu le tournoi, mais en même temps, on bossait, tu vois, entre les matchs, etc. Et on avait vraiment le sentiment, je pense que c'était ressenti des deux côtés, que il y avait quelque chose de bien qui s'était passé, voilà, de fluide, de qui matchait bien, quoi.
Toi, tu fais des recherches, ouais, sur les adversaires à chaque fois pour préparer les matchs. Quand tu dis on a bien bossé entre les matchs.
À l'époque, j'ai pas le souvenir que je recherchais. Alors oui, je pouvais prendre quelques infos, mais j'étais pas trop branché là-dessus plus que ça, qui a changé avec le temps, bien entendu. Naturellement, ça m'est venu en me disant bon là, il y a des trucs à savoir sur le mec, etc. Mais pas à l'époque. Et quand je dis on a bien bossé, c'est juste que moi, Daniil, à cette époque-là, c'était franchement, il y avait tout à construire. C'était, je te dis, un échauffement de match.
Ouais.
Mais c'était grotesque. Je me souviens bah, à Astana, justement, donc au Kazakhstan, avant je sais plus quel match, l'échauffement. Je dis attends Daniil, ça c'est pas un échauffement là. Il y a zéro intensité, il y a rien quoi. Tu prépares rien là. Et puis il me regardait avec des yeux genre mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est mon maximum, etc. Et en plus il avait peur que si il en mettait plus, il allait se fatiguer. Ce qui était pas faux non plus parce que physiquement il n'était pas non plus c'est pas ce qu'il est devenu maintenant avec le travail qu'on a fourni.
Ouais.
Donc en même temps, je peux comprendre que c'était mais attends, mais si je monte un peu plus dans les tours là, je vais être cramé. Donc il fallait aussi entendre ça. Mais bon, donc je l'entendais pour lui faire comprendre que OK, je respecte voilà ce que tu dis et en même temps, il faut rajouter un peu plus quoi. Et je me souviens sur cet entraînement là, je lui avais dit mais vas-y, mais en plus et en plus je m'en fous si tu me la mets dans le mur la balle. Je veux voir autre chose, je veux sentir une autre présence, une autre énergie. Et je me souviens parce qu'il l'avait fait et ça s'était très bien passé. Il avait vu que bah ça pouvait bien se passer, il pouvait en mettre plus sans rater et sans qu'il se crame non plus.
Ouais.
Et donc voilà.
Et aujourd'hui il s'échauffe grave, du coup il s'est joué à la mi.
Aujourd'hui il y a une vraie conscience de l'échauffement, de tous ces éléments là. Et c'est allé encore crescendo, parce qu'entre 2016 et 2017, il y a eu encore, là j'ai commencé à l'accompagner bien plus en 2017, dès le début de l'année d'ailleurs, on est parti en Inde sur le premier tournoi où il fait finale à Chennai, son première finale d'ATP,
ouais.
Et il y avait tout ça, et puis c'était vraiment des découvertes au fur et à mesure, parce qu'il était très jeune. Je me souviens d'un match où il gagne contre Kovalik, et où l'échauffement d'avant-match il est nul, il n'en met pas une dans le terrain, et où ça pouvait prendre des proportions importantes pour lui, de dire mais attends, j'en ai pas foutu une, je joue mal, je ne suis pas en forme aujourd'hui, etc. Et où ce match-là il avait très bien joué, et où à la fin il me dit putain, en fait je pensais pas que je pouvais faire un échauffement de merde, et pas parce qu'il s'était pas donné, mais qu'il sentait pas ce qu'il faisait,
ouais.
Et ça arrive. Et que finalement derrière il pouvait quand même bien jouer, tu vois. Donc tout ça c'est des prises de conscience, tout ça c'est un cheminement que moi en tant qu'entraîneur, et c'est mon boulot, c'est de pouvoir accompagner ça et me servir de tous ces éléments là pour pouvoir faire cheminer et développer le joueur.
Ouais.
Et donc 2017 là j'étais encore en binôme, là pour le coup Julien et Jean-Pierre étaient plus là.
Okay.
C'était JR et moi qui nous partagions les semaines avec Daniil. Et donc au fur et à mesure, j'accompagnais de plus en plus Daniil. Voilà, 2017, ça n'a pas été une année facile, mais ça a été une année vraiment constructive, encore une fois, dans notre relation, dans le travail que moi, la vision du travail que j'ai et que je lui apportais, tout en tenant compte de Daniil, de lui-même, de ce qu'il pouvait donner, de là où il pouvait aller, etc.
Ouais.
Et je me souviens des moments clés de cette saison, ça a été Roland Garros cette année où il perd sur Bondy, mais où avant il a pas de préparation sur terre parce qu'il revient de blessure, et parce qu'il était très fragile physiquement, et où là bon, il perd au premier tour, mais tout ce qui se passe avant et après sur le terrain, à l'entraînement, c'est plutôt de qualité, parce que il est vraiment à fond dans ce qu'il fait. Et moi, ça, je pense que j'ai su le reconnaître et lui donner confiance par rapport à ça.
Ouais.
Ensuite, la saison sur gazon est arrivée et là, il fait des bons résultats. Il fait au Game Boy, j'étais pas avec lui, mais il fait qualifié de quart, il me semble. Ensuite, au Queen. Il fait quart. Là, j'étais pas avec lui, c'est JR qui était avec lui au Queens, et moi je le rejoins à Eastbourne où il fait demi-finale, et à Wim il bat Wawrinka. Voilà, ça c'était autant de moments, de bons moments, de résultats.
Ouais.
Et puis après il y a la saison sur l'été sur aux États-Unis où là c'est catastrophique, il gagne pas un match ou un match peut-être, je me souviens pas. Mais où ça a continué d'être dans la construction du travail et de son développement, parce que même malgré les défaites au premier tour, qui est pas forcément facile à gérer, on faisait du bon boulot. Franchement, on travaillait bien.
Ouais.
Et même si lui, il était jeune et pas professionnel, je me souviens quand on était rentré de Montréal pour connecter avec Cincinnati. On était en bagnole et je me souviens, je lui dis écoute Daniil, pour moi là, on faisait le débriefing dans la bagnole, parce que nous on a de façon de faire, elle respecte pas forcément genre
un cadre, des règles,
juste après, ouais, le match, etc., blablabla, à faire dans l'art de comme on pourrait se dire, ouais, bah, le débriefing il se fait, c'est pas chaud, mais il se fait quand même assez rapidement après le match, et puis
sur un banc dans le vestiaire, voilà, avec une écharpe, une serviette, voilà, autour du cou.
Voilà, non, nous on fait pas comme ça.
Okay.
C'est vraiment alors évidemment, si j'ai quelque chose à dire et que je pense que c'est maintenant qu'il faut le dire, je vais lui dire, mais c'est plus souple, on est beaucoup plus souple, et donc on fait ça dans la bagnole peut-être le lendemain ou le surlendemain, je sais même plus. Alors je dis pas qu'il faut faire ça 3 semaines après parce que t'as perdu les infos, etc. Mais bon, bref. Et puis là, je lui dis, tu sais, Daniel, là, pour moi, je vois plein de trucs où c'est pas assez pro, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. Et il me répond, imagine, tu comprends, moi, je sens pas que je suis, que j'ai une passion comme ton pote Karen Kachanov.
Ouais.
Qui lui, il est capable de s'entraîner 10 heures par jour, machin, comme ça. Moi, j'ai deux choses à dire par rapport à ce que tu dis. Je lui dis, la première, c'est que, un, aujourd'hui, pour moi, t'es trop jeune pour
ce que, Ah, c'est mieux là. C'est mieux au niveau du son. Je sais pas si t'as changé un truc.
Je t'entends mieux aussi, mais je sais pas pourquoi. J'ai pas bougé.
Ok. Bon, en tout cas, c'est top.
Voilà. Et donc, je lui dis, pour moi, là, t'es trop jeune pour aujourd'hui avoir des certitudes là-dessus. Déjà. Et je lui dis, ensuite, tu sais, la passion ou l'entraînement, il se manifeste pas et il s'exprime pas de la même manière pour tout le monde.
Ouais.
Karen, il peut être comme ça. Mais toi, tu peux avoir une passion et une façon de travailler qui s'exprime comme ça. Et pour autant, ça ne veut pas dire que la sienne est meilleure que la tienne ou la tienne est meilleure que la sienne. C'est juste, elle correspond à qui vous êtes.
Ouais.
Voilà. Et aujourd'hui, je veux dire, c'est complètement ce qui s'est passé. C'est complètement, on est complètement là-dedans, quoi. Et donc, bon, voilà. Ça, c'est la petite histoire en courant d'été. Moi, après, je fais Cincinnati avec lui. C'est JR qui vient aux États-Unis pour faire la suite de la tournée d'été.
Ouais.
Et Daniel vient nous voir et en ayant réfléchi, en disant, écoutez, voilà, j'aimerais que ce soit seulement Gilles qui m'entraîne et qui m'accompagne. Voilà, est-ce que c'est possible, est-ce que Gilles t'a envie, etc. Et puis voilà, ça a commencé.
C'est bon, ça
a commencé comme ça.
Juste en comprenant l'évolution et la construction, jamais de la vie tu l'aurais vu venir, qu'il atteigne le 5e rang mondial aujourd'hui. Enfin, tu le sentais pas du tout comme ça. Ça a été vraiment un travail de construction, quoi.
Hop, 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 ne t'en va pas si vite. Déjà, un grand merci d'avoir écouté cette première partie avec Gilles. Tu l'auras compris, la suite et fin arrive mardi prochain, un peu de patience. Tu peux nous rendre un immense service en partageant tout de suite l'interview à deux potes à toi et en inscrivant tes amis au podcast directement sur leur téléphone, parce que le bouche à oreille nous aide réellement. Et il faut le dire, ça fonctionne à merveille. Si tu veux être une légende dans notre cœur et nous permettre d'avoir des invités de renom, il suffit de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de sortir tes plus belles rimes pour nous laisser un commentaire sympa. Immense merci à Billy, Apo, Anto, Ferry et Pierre pour vos mots qui nous vont droit au cœur cette semaine. La palme est à partager entre Anto et Apo, puisque leurs messages sont juste au-dessus du game. Anto nous écrit « Aussi agréable à écouter que regarder un match à Roland. Max nous immerse dans le vrai monde du tennis, passionné et passionnant. » Et Apo régale en nous disant « Hyper sympa de nous ouvrir les portes du monde pro. » Très enrichissant également sur le dépassement de soi, le vécu des échecs, la puissance du travail. Mille merci à vous. Un big merci également à Constance de nous soutenir sur Tipeee depuis cette semaine, parce qu'avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a mis en place un compte si tu veux nous aider entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion. Chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 euros, soit un café par mois, ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description juste en dessous de l'épisode. Pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne. Tous les liens donc sont à retrouver juste en dessous en description, tu l'auras bien compris. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.